France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Je ne résiste pas à vous dire quel téléphone sonne. Nous avions prévu vendredi soir. L'idée en ce jour de rentrée, après les vacances de Noël, c'était 2026, deux points, restons optimistes. Voilà, comment vous dire. La question a changé en même temps que cette opération spectaculaire de Donald Trump est en train de changer l'ordre du monde. Vous me direz, c'est pas la première fois qu'on dit ça de Trump, qu'il change l'ordre du monde, mais cette fois, il a vraiment joint le geste à la parole. C'est peut-être bien d'ailleurs ce qu'on ne peut pas lui reprocher. Il annonce ce qu'il va faire, ce qui n'est pas toujours fait pour nous rassurer, nous les Européens, mais pas seulement. Après cette opération donc spectaculaire au Venezuela, nous voilà donc revenus, on l'a beaucoup dit ces 48 dernières heures, à la sphère d'influence américaine. On verra si c'est comme ça qu'il faut réellement le lire. Et une fois qu'on a posé tout ça sur la table, il reste une multitude de questions que nous allons tenter de lister ensemble. Sait-il réellement ce qu'il fait, le président américain? Il veut le plus grand gisement de pétrole du monde, ça c'est sûr, mais que contrôle-t-il de ce qu'il se passe après, au Venezuela bien sûr, mais aussi ailleurs? Est-ce qu'il entend s'en prendre également à la Colombie? Faut-il s'attendre à une chute imminente de Cuba, privée du pétrole vénézuélien? Quelles conséquences pour la Chine, qui se servait dans ces réserves-là? Quelles conséquences pour la Russie? Est-ce que le président américain a donné un blanc-seing à tous ceux qui veulent leur propre sphère d'influence élargie aussi, sans compter le regard vers l'Iran. Et à l'intérieur des États-Unis, on est là dans l'inverse même de ce que veulent les MAGA, les supporters les plus fervents de Donald Trump. Pas d'aventurisme à l'extérieur, fermez les guillemets. Est-ce qu'il les prend à revers ou va-t-il les convaincre avec le pétrole encore que... Eh ben non, pour le coup, c'est plutôt une bonne idée. Et puis nous, les Européens, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Doit-on protéger le Groenland par la force? Est-ce qu'il nous fait peur, ce Trump? Est-ce qu'on a surtout raison d'avoir peur? C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Christian, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup. Bah écoutez, moi, comme je disais, j'étais atterré et effrayé de ce qui s'est passé. Atterré, effrayé parce que c'est un coup d'État. C'est-à-dire qu'on laisse un pays faire un coup d'État comme ça, et en plus c'est les États-Unis qui font ce coup d'État. On sait très bien qu'il n'y a pas d'histoire de narcotrafiquants ou de drogue là derrière, c'est qu'un intérêt économique. Et puis je suis effrayé, atterré parce qu'il n'y a aucune réaction en face. C'est que l'Europe n'a rien dit, ne dit rien, ne fait rien. Donc pourquoi Trump ne continuerait pas? Il a fait ça là et puis il a continué. C'est inquiétant. C'est très inquiétant de voir qu'on peut laisser un pays faire ça. Ça fait peur pour l'avenir, comme vous disiez, et pour l'ordre du monde, comme on dit très bien aujourd'hui.
Eh ben, merci beaucoup, Christian. Merci pour cette entrée en matière, pour discuter ensemble. Et vous êtes un peu le porte-parole de beaucoup de nos auditeurs, d'ailleurs, Christian, ce soir, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Autour de la table, il y a Anne Desine. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure émérite à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes juriste américaniste. Vous êtes spécialisée sur les questions politiques et juridiques. Surtout, vous avez écrit Des juges contre l'Amérique, la capture de la Cour suprême par la droite radicale aux éditions Presse Universitaire de Paris-Nanterre. C'était en 2024, mais ça tient toujours. Autour de la table, il y a aussi Anne Souhaitemont. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
La directrice de la rédaction internationale de Radio France, c'est vous. Et puis Thomas Posado est avec nous également. Bonsoir Monsieur Posado.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en civilisation latino-américaine à l'université de Rouen. Vous avez écrit « Venezuela, de la révolution à l'effondrement » paru en 2023, là, aux presses universitaires du Midi. Je disais que notre auditeur était un peu le porte-parole de chacun et de beaucoup, notamment sur ce qu'il appelle, lui, la non-réaction européenne. Je vais me tourner vers vous, Anne Souhaitemont. Est-ce qu'on peut parler de non-réaction européenne ou de réaction très diverses européennes? Qu'est-ce qu'on utilise comme mot?
Ce qui est sûr, c'est qu'on a une réaction qui est d'une certaine nature en Europe. Tout le monde n'a pas réagi exactement de la même manière. Je peux mettre par exemple Giorgia Meloni de côté, la dirigeante italienne.
Elle a dit bravo.
Elle a dit bravo, voilà. Mmh. Elle parle d'une intervention décisive. Mmh. Mais c'est sûr que du côté de la France, comme de la Commission européenne, comme de plein d'autres pays européens, il y a eu une prudence qui a été de mise. On a parlé de droit international. On a moins nommé Trump. C'est ça qui est assez intéressant quand vous faites l'analyse des tweets des uns et des autres. Finalement, le mot Trump est est assez peu présent. Et je pense que ça, c'est central, parce qu'en fait, ce dont ont peur les pays européens, c'est de se mettre Trump à dos. Quand on voit ce qu'il est capable de faire, forcément, ça fait très peur. Et en arrière-scène de tout ça, dans le décor, il y a évidemment ce qui est en train de se jouer en Ukraine.
Mais est-ce que ça veut dire, Anne, que... Alors, on comprend bien que l'Ukraine est très largement loin d'être réglée, mais est-ce que ça veut dire qu'en plus, en termes de calendrier, la nouvelle réunion de la coalition des volontaires, c'est là, oui. C'est cette semaine. Donc, les choses sont aussi en train de se percuter. Si, je vais faire de la politique fiction, mais j'ai un peu peur qu'on en fasse beaucoup de la politique fiction ce soir, si il n'y avait pas eu cette réunion maintenant, mais dans 15 jours ou dans 3 semaines, est-ce qu'on aurait même pu imaginer quelque chose d'un pôle différent ou pas du tout ?
Alors, je ne sais pas si on peut vraiment imaginer ça. Après, ce qui est sûr, c'est que ce qui est en train de se négocier en ce moment, c'est des pays européens qui vont fournir des garanties de sécurité qui sont très sérieuses, ce qui du coup déclenchera une aide américaine et donc des garanties de sécurité du côté des Américains très sérieux, et donc une Ukraine qui peut tenir face aux géants russes. Donc forcément, face à l'agression russe. Forcément, c'est important et ça explique la prudence européenne.
On parlait de prudence européenne et au fond, on peut faire le premier tour de table sur le silence des uns et des autres, parce que Andesine, côté États-Unis, chez les parlementaires, alors Dieu sait que les parlementaires sont muets depuis un an ou quasiment, hein, mais on n'a pas entendu grand-chose non plus du côté des parlementaires américains, que ce soit au Sénat un petit peu, à la Chambre des représentants un petit peu, pas beaucoup non plus. On n'a pas encore entendu non plus les MAGA. On a même du mal à savoir ce qu'ils pensent, les Américains, au moment où on se parle.
Hein. Alors je vais parler des Américains, mais je voudrais quand même rebondir. C'est très facile de dire les Européens devraient parler, et moi-même je défends souvent, en particulier sur le règlement sur les numériques, sur un certain nombre de dossiers, je voudrais que l'Europe fasse preuve de davantage de force. Mais pour s'exprimer, il faut être crédible. Nous n'avons pas pour le moment les moyens de nous exprimer avec force. Donc, principe de réalité, et j'ai défendu le président Macron, qui était beaucoup critiqué par ailleurs, je pense qu'il a raison quelque part de ne pas attirer le courroux de Donald Trump sur la France et sur l'Europe au moment où nous ne sommes pas encore prêts à agir sans les Américains. C'est du principe de réalité.
Chez les Allemands comme chez les Français, on a l'impression qu'il y a un peu un good cop, bad cop, en fait, c'est-à-dire les deux présidents Barreau, qui y vont tout exactement. Doucement, pendant que Barrot, par exemple, lui, a été plus loin, notamment sur l'état de droit.
Je voudrais quand même
qu'on revienne là-dessus, parce que là aussi, on les entend pas beaucoup.
Alors, il est clair que, jusqu'ici, tous les membres du Congrès, chez les sénateurs, chez les républicains, silence radio, quoi que fasse Trump au plan interne. Ils ont commencé un petit peu à émettre des doutes, des mini-critiques, à chaque fois qu'il y a eu des tirs sur ces bateaux, dont on ne savait même pas s'ils transportaient de la drogue, sans autorisations du Congrès, mais sans même informer le Congrès. Parce que l'idée est que s'il y a une urgence telle, le président peut agir, mais il doit tout de suite informer le Congrès, soit le Congrès dans sa totalité, soit ce qu'on appelle le Gang of Eight, 4 de la Chambre, 4
Et là, il n'y a même pas eu un coup de fil. Hein,
personne. On entend les démocrates qui disent, mais on n'a même pas été informé a posteriori. Donc, il y a vraiment un désir de Trump de tenir le Congrès à l'écart. Alors, certains républicains, bon, on parle de 2 ou 3 au Sénat et 2 ou 3 à la Chambre, et celle qui était la plus vocale, c'est Marjorie Taylor Greene, qui, elle, s'est vraiment dissociée de Trump, alors que c'était la fidèle parmi les fidèles qui n'hésitait pas à répercuter toute la rhétorique toxique. Elle s'est dissociée sur le dossier Epstein et sur, justement, cette politique étrangère.
Mais si elle se dissocie là, Andesine, c'est précisément que c'est son jour de démission aujourd'hui. Elle est dans une démarche politique, elle, qui est de s'écarter de Trump, mais elle est bien seule, quoi, elle aussi. Hein.
Il y a un autre représentant qui s'appelle Massey, il fait partie de ceux qui ont voté pour que soit rendu public le dossier Epstein, et lui aussi dit ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons élu Trump. Nous avons élu Trump parce que il nous a dit c'est fini ses engagements, etc. Il faut se rappeler que lors de la campagne de 2016, il était le seul républicain qui a osé critiquer George Bush pour son intervention en Irak.
George Bush, consulter le Congrès et le Conseil des Nations Unies, ce qui là aussi a été squeezé en l'occurrence ce week-end.
Oui,
on n'a pas parlé des Nations Unies.
Là, on va finir par trouver des excuses à George Bush 2003, et Dieu sait qu'à ce moment-là, ce n'était pas si simple. Je voudrais vous poser la même question, Thomas Posado, et c'est peut-être un peu compliqué de le savoir là, mais là aussi, on a du mal à se rendre compte si le Venezuela, le peuple vénézuélien, nous envoie des messages qui disent on est au moins débarrassé de ce dictateur, ou s'il nous envoie des messages de crainte inquiétante sur ce qu'il peut se passer derrière. Ou peut-être que pour l'instant, la sidération est telle qu'on a du mal à répondre à cette question, y compris au Venezuela.
Oui, bon, au Venezuela, il y a un mélange de ces trois sentiments, de soulagement pour beaucoup d'opposants qui voient dans la chute de Maduro la possible sortie de cette décennie de crise qui a épuisé le peuple vénézuélien. On voit une peur parce que l'insécurité militaire, elle est réelle, que le blocus maritime de Donald Trump, s'il se maintient, aura des conséquences très graves pour le peuple vénézuélien et que l'autoritarisme de Maduro semble potentiellement remplacé par l'autoritarisme de Delcy Rodríguez. Il n'y a aucun changement dans la direction du gouvernement. Et enfin, une certaine sidération, parce que même il y a quelques jours avant le kidnapping de Nicolas Maduro, Nicolas Maduro se produisait en public devant des milliers de personnes, et il y avait du monde pour le soutenir. Là, on a vu une manifestation de 2000 personnes qui contraste même avec ce qui se passait il y a quelques jours, et qui est un effet de la sidération. Personne pouvait s'attendre à un acte de cette nature, de ces actes de guerre, et une telle rapidité dans l'exécution du plan.
Comment on peut l'évaluer, la popularité d'un Maduro dont on sait très bien, on l'a rappelé tout à l'heure en première heure, que les élections de 2024, il ne les a pas gagnées, il les a volées. On sait bien que jusqu'à quelle était la nature de ce régime-là. Est-ce qu'on peut évaluer ce que c'est, sa base, ce que ça représente, et surtout, donc, du coup, le corollaire à côté, si il y a de toute façon suffisamment de gens aujourd'hui pour pouvoir proposer quelque chose d'alternatif, quoi qu'il arrive?
Oui, les sondages sont toujours très sujets à caution au Venezuela, surtout dans le contexte autoritaire dans lequel nous vivons. Le seul sondage qui me semble valide, c'est celui donc des élections présidentielles de 2024. L'opposition avait consigné les procès-verbaux de bureau de vote par bureau de vote, et on arrivait à des résultats de l'ordre de 30% pour Nicolas Maduro, 67% pour Edmundo González, candidat de l'opposition. Ce noyau de 30%, c'est un noyau minoritaire, mais c'est un noyau non négligeable, et c'est un noyau qu'il faut prendre en compte dans l'évolution de la situation sécuritaire. Nicolas Maduro a distribué des armes, il y a des milices bolivariennes dans ce sens, donc ce serait potentiellement un bourbier si intervention militaire il y avait. Et surtout, ce qu'il fait tenir, c'est des institutions politiques, judiciaires, militaires surtout, qui sont toujours d'une loyauté totale à Nicolas Maduro, Delcy Rodríguez aujourd'hui. En 2019, lorsqu'il y a eu l'autoproclamation de Juan Guaido, il y avait eu quelques centaines de dissidents au sein de l'armée, de gens prêts à se retourner contre le gouvernement. Aujourd'hui, on n'a pas vent de ces mouvements, alors que les menaces militaires sont depuis le mois de septembre extrêmement précise, et que depuis samedi on a des signes que potentiellement il y a eu des transitions, y compris au sein des hautes sphères, pour arriver à une opération aussi rapide contre le chef de l'État, mais pas de dissidence majeure pour l'instant.
Et même le nom de Delcy Rodríguez a été prononcé à un moment sur des éventuelles aides ou assistances aux Américains. Je voudrais qu'on retourne au standard retrouver Florian qui nous y attend. Bonsoir Florian.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
On vous écoute Florian.
Merci pour la qualité de vos émissions d'abord. Je voulais intervenir, en fait on est un peu sidérés là tous par l'action américaine au Venezuela, on est choqués par cette ingérence flagrante et ce coup de couteau dans la souveraineté d'un pays, mais finalement, est-ce que les États-Unis n'ont pas l'habitude de commettre ces ingérences dans les politiques intérieures, sauf qu'elles le faisaient peut-être avant à bas bruit, en s'appuyant sur des opposants internes? Je pense bien sûr à Allende au Chili, pour prendre un pays géographiquement proche. En gros, pour faire court, est-ce que c'est pas la fin d'une hypocrisie et un gain d'efficacité pour les USA?
Merci Florian pour votre question, Anne-Désine. Est-ce qu'on a la mémoire courte, ou pas?
Non, je pense que même en ayant la mémoire courte, il y a suffisamment d'interventions, en particulier dans la fameuse arrière-cour en Amérique latine, dans les années 70-80, la CIA qui fomente des coups d'État, etc. Bon, il y a eu aussi...
C'est une autre histoire. On a l'impression qu'on avait quitté cette histoire-là, en fait, depuis Bush père, en gros. Le dernier,
oui, c'est ça.
C'était...
1989, c'était Noriega, c'était le Panama. Mais ça s'était fait de façon un tout petit peu plus civilisée. Enfin, moins bien sur le plan militaire, puisqu'il y avait eu des morts, alors que du côté américain, il n'y a pas de morts cette fois-ci. Mais par contre, il n'avait pas été exfiltré. Il y avait une extradition en bonne et due forme, suivie d'un procès, etc. Alors que là...
Kidnappé. C'est encore pire qu'une exfiltration, là.
Oui, il a d'abord été kidnappé avant d'être exfiltré. Et puis, l'opération, je répète, qui est parfaite, qui est d'ailleurs spectaculaire. Trump était ravi, il a regardé ça comme on regarde un jeu vidéo ou une série télévisée. Ça montre aussi la puissance de l'armée américaine. C'est-à-dire que c'est à la fois le mauvais exemple pour la Chine et pour la Russie, mais ils doivent aussi, Poutine et Xi, se dire quand même, ils sont puissants, on peut pas faire n'importe quoi, donc ça marche dans les deux sens.
C'est là-dessus que je voudrais qu'on insiste aussi, Anne Souhaitement. Poutine et Xi, effectivement, comme dit Anne Desine, est-ce que leur premier réflexe est de se dire « Ah ben, s'il le fait, on va pouvoir y aller tranquillement, nous, en fait, il n'y a aucune raison qu'on nous arrête hein, » ou est-ce que leur premier sentiment, c'est de dire « Je perds, là, pour le coup, ma sphère d'influence ». Pour les Chinois, c'est pas tant les 80% du pétrole vénézuélien, c'est ce que ça représentait, le pied dans l'Amérique, oui. dans l'Amérique du Sud.
Alors, je sais pas comment vous lisez les choses, mais moi, je trouve que c'est très difficile à lire, en fait. Parce qu'il y a à chaque fois, comment dire, un côté positif et un côté négatif. En fait, à chaque fois, autant Vladimir Poutine que Xi Jinping peuvent avoir des arguments qui vont des deux côtés. C'est d'ailleurs pareil pour Zelensky, ce qui montre bien à quel point c'est un jeu très compliqué à comprendre. Pour la Chine, effectivement, il y a le problème du pétrole, ça c'est clair. La Chine était celle qui achetait le plus de pétrole 80%. Au Venezuela, entre 55 et 90 certains mois, mais ça représentait quand même très peu de ça. Consommation à elle.
Ça veut dire que ce n'est pas un manque à gagner en pétrole pour la Chine.
Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que dans le contexte d'une Chine, elle aussi expansionniste, avec des visées sur Taïwan, y a un message un peu contradictoire. À la fois, Xi Jinping peut se dire « Bon, bah, du coup, moi aussi, j'ai plus... » Même une démocratie prétend annexer, parce que c'est là aussi la grande différence par rapport à avant dans l'histoire américaine, c'est que là, Trump parle quand même d'annexion. On n'est pas seulement sur le kidnapping d'un chef d'État, il parle d'annexion. Après, va-t-il le faire ?
Il parle de gouverner, to run le pays. Mais tout de suite, Marco Rubio a fait marche arrière. Rubio a dit non, on ne va pas faire ça, on va mettre une pression maximum via une sorte d'embargo. Il y a déjà les sanctions, donc on va durcir les sanctions, de façon à ce qu'il n'y ait plus du tout d'exportation de pétrole.
Enfin, c'est si vous ne me mangez pas dans la main, j'ai les moyens d'accélérer l'embargo, de l'appuyer, etc. Voilà. Mais donc, du coup, on l'a un peu dit tout à l'heure en première heure, chacun a besoin de l'autre, en fait, en ce moment, au Venezuela. Hein, oui. S'il n'a pas Delcy Rodriguez, il fait comment Donald Trump aujourd'hui ?
Oui, alors déjà, il faut voir les chiffres. Le Venezuela, c'est les plus grosses réserves de pétrole, c'est 300 milliards. Ouais. Mais pour le moment, c'est une production d'un million de barils par jour, presque rien. Alors qu'il y a 10 ans, c'était 3 millions. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les infrastructures sont en très très mauvais état ? Ou est-ce que c'est dû déjà aux sanctions ? Et est-ce qu'on peut encore durcir les sanctions ? Bon, j'imagine que vous en avez parlé aussi. Rodriguez, on ne sait pas très bien. Est-ce qu'elle a été un peu achetée ? Est-ce qu'elle est prête
C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, en effet.
Est-ce qu'elle a sans doute pas mal d'argent dans le système de corruption généralisé ? Est-ce qu'elle va travailler ? En un premier temps, elle a quand même eu un sursaut un peu nationaliste. Et c'est curieux, parce que Machado, celle qui a gagné le prix Nobel, qui a tout de suite laissé entendre qu'elle était prête à une intervention de Trump. Et ça a été assez mal perçu.
Et
donc,
c'est Trump lui-même qui a dit « Non, nous, celle-là, elle ne nous intéresse pas, c'est exactement. Lui qui la disqualifie. » Un mot, Anne Souhaitement, évidemment,
sur la Chine,
je
reviens. Donc, ils peuvent se dire, bon, bah voilà, même une démocratie a des prétentions sur un État souverain. Donc, pourquoi ? Enfin, en gros, ça me donne un blanc-seing, moi, Xi Jinping, pour aller sur Taïwan. Et en même temps, c'est quand même la démonstration de force d'un appareil militaire absolument énorme et qui, dans ce détroit de Taïwan, peut se déployer. Et là, les Chinois peuvent se dire, bon, on est en retard, on le savait. Le retard est encore énorme. Et c'est pareil pour la Russie de Poutine. Oui. Vladimir Poutine peut se dire, bon, bah du coup, moi, ça me donne des arguments pour défendre mes prétentions supposément historiques sur l'Ukraine, et donc territoriale. Et en même temps, c'est un petit signal. Et là-dessus, Zelensky a immédiatement réagi et s'est appuyé dessus en laissant entendre que du coup, si on peut aller kidnapper un chef d'État qui vit dans des conditions sécuritaires absolument dantesques, pourquoi ne le ferait-il pas pour Poutine ? Il ne l'a pas dit comme ça, mais on sent bien que c'est ce qu'il souhaite.
Et alors c'est intéressant, juste un mot, parce que Poutine a essayé de faire ce type d'opération et de capturer Zelensky en 2022. Il n'a pas réussi. Échoué, donc il n'a pas la puissance des États-Unis et la force de frappe chirurgicale pour aller chercher quelqu'un au fond de son palais.
Avant de retourner au standard, Thomas Posado, c'est vrai que tout le monde s'interroge sur Delcy Rodriguez, sur son rôle réellement et surtout sur ce à quoi elle va servir. Est-ce qu'elle mange déjà dans la main de Trump ? En fait. Mais est-ce que Trump aussi mange dans la sienne? Parce qu'encore une fois, il a beau dire, Donald Trump, que nous ferons diriger le Venezuela par un groupe de personnes le temps que tout soit remis sur les rails. Est-ce qu'il a vraiment envie, est-ce qu'il a vraiment les moyens même de faire gouverner le Venezuela par un groupe de personnes? Il a plutôt intérêt à ce que ça se passe bien avec Delcy Rodriguez, non? Donc c'est un peu 50-50 ou pas?
Non, c'est pas 50-50 au vu de l'intervention. Au vu de l'intervention dans la nuit de vendredi à samedi, le rapport de force est très favorable à Donald Trump. Il peut menacer.
Mais le rapport politique, je veux dire.
Même dans un rapport politique, il a la possibilité de s'imposer. Rien que cette pression militaire, elle rend l'exécutif de Delcy Rodriguez extrêmement fragile. Delcy Rodriguez est partagée entre une base sociale qui est en voie de démobilisation et une pression militaire extrêmement forte. C'est d'ailleurs la contradiction de son discours, où elle essaye d'avoir des velléités nationalistes, mais qu'elle ne peut pas franchement exprimer, tout en appelant à une coopération avec les États-Unis, parce qu'elle sait ce qui est arrivé à son prédécesseur deux jours avant. Elle se retrouve dans une situation où Nicolas Maduro déjà proposait de négocier avec Donald Trump, avait proposé des contrats préférentiels aux États-Unis, quitte à desserrer ses liens avec la Russie et la Chine, ce que visiblement n'a pas été reçu favorablement par Donald Trump. Delcy Rodriguez se retrouve dans la même position, mais avec le précédent de ce qui s'est passé avec Nicolas Maduro et des déclarations extrêmement claires de Donald Trump, de menaces sur sa personne en tant que telle. Delcy Rodriguez, sa trajectoire, rien ne la destine à avoir une opinion favorable des États-Unis. Elle vient d'une famille qui était d'une gauche assez radicale. Son père a été assassiné après avoir kidnappé un entrepreneur états-unien. Elle est engagée dans le chavisme depuis 20 ans. Elle s'est engagée au moment du coup d'État raté contre Chavez en avril 2002. Et elle évolue auprès de Nicolas Maduro. Il n'a jamais établi de divergence sur le rapport aux États-Unis depuis toute cette période.
Il l'appelait sa tigresse. On peut se demander si elle peut pas être la tigresse de Trump aussi. Je dis ça sans plaisanter, Thomas Posado.
Est-ce qu'elle va accepter cette reddition de Donald Trump? Les ambitions de Donald Trump sont extrêmement fortes. Transformer le Venezuela en forme de protectorat états-unien. Est-ce que la reddition va aller jusque-là pour Delcy Rodriguez, ou est-ce qu'elle va réussir avec le reste de son équipe à rééquilibrer le rapport avec Donald Trump? Il me semble que c'est pas du 50-50, ouais. Je dirais même plutôt du 80-20 en faveur de Donald Trump, s'il faut donner des chiffres évidemment. Mais disons que les atouts que peut mobiliser Delcy Rodriguez sont très faibles, à part le contrôle territorial du pays. C'est qui la différencie d'ailleurs de Maria Corina Machado, qui a été rabrouée sévèrement par Donald Trump, alors que Maria Corina Machado a toujours été d'une loyauté absolue à l'égard de Donald Trump.
Et elle le disait même à la seconde où elle a reçu le prix Nobel de la paix, donc ça a dû quand même lui faire un peu tout drôle. Voici Mathias qui nous attend depuis un moment. Pardon Mathias, et on vous salue, bonsoir.
Bonsoir, pas de soucis. Moi, ma question, c'était, étant donné que la France a des territoires en Amérique du Sud, mais aussi dans les Caraïbes, notamment la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, est-ce que on n'aurait pas tout intérêt à être beaucoup plus sur la défensive par rapport à l'attaque de pays qui sont en soi nos voisins, d'autant que je crois aussi que la France a peut-être des intérêts pétroliers à défendre?
Merci Mathias pour votre question. Moi je la trouve intéressante cette question, parce que ça veut dire qu'il a brouillé toutes les pistes Donald Trump, pour qu'on en soit à se demander ce qu'on fait des Antilles qui sont effectivement proches, on est à une encablure du Venezuela. Il y a beaucoup de questions aussi, on y viendra, sur mettre des troupes au Groenland, etc. Enfin, on a l'impression qu'il a complètement brouillé toutes nos cartes, en fait. Anne Souhaitement,
ce qui est sûr, c'est quand vous discutez avec des diplomates aujourd'hui, ils parlent tous d'une forme de reset dans la lecture des relations diplomatiques assez classique. Je discutais encore aujourd'hui avec plusieurs d'entre eux qui sont des diplomates français en poste en Europe sur le flanc Est, et qui racontent que longtemps, il y a eu des politiques étrangères qui étaient extrêmement claires, on savait qui étaient nos alliés, on connaissait le langage, on savait quelles expressions, sur quoi on pouvait s'appuyer, et qu'aujourd'hui, tout s'écroule un petit peu, et que, il y a aussi une nouvelle manière de communiquer avec Trump. Certains dirigeants l'appellent directement, on passe plus du tout par les canaux diplomatiques classiques, ça montre bien qu'on est sur quelque chose de
9.
Ce que nous dit la question de notre auditeur, Anne Desine, c'est il est capable de tout, donc y compris sur les îles proches qui sont les nôtres, et là-dessus, il nous fout la trouille. C'est aussi ça qu'il a complètement changé dans la politique internationale. Mais c'est peut-être pour ça qu'il a tout gagné aussi dans cette opération. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà subitement que la Colombie derrière dit « Attendez, mais moi je me réarme parce que j'en suis parfaitement capable. » Et on sait très bien ce que l'armée américaine alors, pourrait faire aussi en Colombie. Voilà qu'on se remet à se demander ce qu'on va faire avec le Groenland. Le simple fait de l'avoir fait une fois avec le Venezuela, on a l'impression que ça lui a ouvert de multiples portes à ce garçon, en fait.
Oui, alors en Amérique latine, il y a presque une nouvelle théorie des dominos.
Oui.
Si le Venezuela tombe, est-ce que la Colombie, le Nicaragua,
Cuba.
Et puis Cuba, surtout, voilà, bien sûr, parce que Cuba dépend du pétrole vénézuélien, si Venezuela ne peut plus exporter. Mais
d'ailleurs, il a raison, Trump là-dessus, non, Cuba tombe tout seul sans le pétrole vénézuélien, non?
Oui, enfin, en tout cas, il y en a un qui aimerait bien, c'est Marco Rubio. Il faut rappeler que ses parents ont émigré de Cuba, il est très très hostile.
C'est son histoire à lui.
Au régime castriste, c'est à ce qu'on appelle un faucon aux États-Unis, et il a sans doute chuchoté dans l'oreille de Trump pour cette opération. Est-ce que c'est une bonne idée? Comme toutes les opérations américaines, que ce soit l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, c'est un peu chez nous aussi, l'Europe et tout. Ouais. Mais c'est facile de faire tomber un dictateur, ce qui est compliqué, c'est la période d'après. Alors, est-ce qu'autour de lui, il y a des gens qui ont compris les leçons de l'Irak, où les Américains avaient détruit toute l'infrastructure politique des bassistes, ce qui explique le chaos et l'impossibilité de reconstruire le pays? Est-ce que là, ils vont essayer de s'appuyer sur l'alliance entre les politiques restants, donc la vice-présidente et l'armée? Est-ce que c'est possible? On se rend compte que si l'opération militaire avait été extrêmement bien préparée et a été un succès fabuleux, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment un plan quant à ce qu'il est possible de faire maintenant. Pour
c'est
l'avenir.
Sûr que Trump aime les choses précises, les frappes précises. On l'avait vu en Iran, lors de la guerre Israël-Iran. Les États-Unis étaient intervenus. C'était déjà là aussi un palier qu'on qualifiait d'historique. C'était en juin. Mais en fait, c'était quand même très ponctuel. Quelques frappes sur les centrales nucléaires et c'est tout.
Mais c'est pour ça, effectivement, qu'il a peut-être intérêt. On parlait du 80-20 tout à l'heure avec Thomas Posado, avec Delcy Rodriguez. Intérêt, effectivement, à ne pas avoir à restructurer l'intégralité d'un État vénézuélien, quitte à ce que l'armée, en plus, se divise et ça deviendrait compliqué. Je voudrais qu'on écoute Claude qui nous attend. Bonsoir, Claude.
Oui, bonsoir. J'entends bien qu'on puisse réprouver une opération militaire à l'étranger, mais tout de même, Madame Meloni a applaudi. Et dans le cas qui nous occupe, il s'agit de la source du trafic de drogue mondial. Imaginons la suite de façon optimiste. Il n'y a plus de morts dans les quartiers de Marseille, il n'y a plus de policiers menacés, il n'y a plus de cerveaux détruits par la drogue, et les trafiquants sont obligés de vendre leurs BMW et leurs armes. Faisons une petite projection. Imaginons qu'il y ait un Auschwitz 2. Je sais bien.
Vous allez loin dans vos projections, si je puis me permettre.
Non. Imaginons que les États-Unis interviennent. Ils font un procès, ils exfiltrent les responsables et ils leur font un procès de Nuremberg. On ne trouverait rien à redire. Mm-hmm. Bon, là, il s'agit quand même d'une drogue qui peut finir par détruire notre civilisation si on la laisse, si on lui laisse libre cours.
Je voudrais qu'on réponde à ça. Merci beaucoup, Claude Thomas Posado, parce qu'on a un peu entendu tout et son contraire sur le rôle du Venezuela dans le trafic de drogue vers les États-Unis et vers l'Europe également. Est-ce qu'on peut remettre les choses à leur place là-dessus? Alors, c'est pas un saint, et la drogue circule au Venezuela, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais quelle est la part, on va dire, du Venezuela là-dessus, Thomas Posado?
Malheureusement, je crains qu'on ne puisse pas arrêter le trafic de drogue mondial avec le Venezuela. Le Venezuela ne produit pas la principale drogue qui cause des morts aux États-Unis, le fentanyl. Le Venezuela ne produit pas de cocaïne qui est...
Le fentanyl arrive de Chine. La cocaïne est produite en Colombie.
En Colombie, Pérou, Bolivie, les trois pays producteurs. Et le Venezuela est un pays de transit secondaire de la cocaïne. On estime autour de 8% de la cocaïne andine qui passe par le Venezuela pour aller soit vers les États-Unis, soit vers l'Europe. En arrêtant 8% du transit, et encore, on sait que le trafic de drogue reconfigure ses routes aussi vite qu'il y a des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Je ne pense malheureusement pas qu'on va arrêter le trafic de drogue de cette manière-là. D'autant que Donald Trump a un double discours. discours à l'égard du trafic de drogue. Il a gracié il y a quelques semaines Juan Orlando Hernández, l'ancien président du Honduras, qui avait été condamné à 45 ans de prison pour avoir introduit 400 tonnes de cocaïne. Donc, enfin, je crains que Donald Trump ne soit pas l'allié qu'il faut pour arrêter le trafic de drogue, qui serait sans doute une très bonne chose pour l'humanité. Mais cette accusation de narcotrafic contre Nicolas Maduro est largement instrumentalisée politiquement pour disqualifier des ennemis, alors qu'on voit qu'elle peut être utilisée pour absoudre des ennemis, dans un autre cas. Le gouvernement de Nicolas Maduro est sans aucun doute un gouvernement autoritaire, mais l'accusation de narcotrafic me semble largement exagérée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la drogue qui passe par Venezuela. On n'arrêtera pas le trafic de drogue, malheureusement, par le Venezuela, qui n'est pas le pays producteur et qui est un pays transit.
C'est effectivement le voisin colombien, celui qui, je ouvrais les guillemets, devrait faire gaffe à ses fesses, fermer les guillemets. C'est Trump qui le dit en direction de la Colombie, mais ce serait une autre affaire si demain les États-Unis décidaient de mettre leur nez dans ce pays-là. Mais ce que je trouve intéressant, Anne Desine, dans la question de Claude, c'est aussi que cette narrative qui est celle des Américains, elle fonctionne quand même, peut-être auprès d'ailleurs de notre auditeur, bien sûr, mais auprès d'autres évidemment, et des Américains aussi, probablement, oui. Des Américains MAGA, non ?
Moi je vois deux choses. Tout d'abord, les Américains sont dans une guerre contre le terrorisme depuis des années, sans grand succès. Ils ont tout essayé en Colombie, etc. Mais moi, ce que je trouvais intéressant dans la question, c'est en fait la tentation, c'est-à-dire on se dit, nous avons essayé toutes les méthodes classiques, nous avons essayé la diplomatie, nous avons essayé des nouvelles cultures, nous avons essayé. Et Trump, il met les pieds dans le plat, il ne respecte aucune règle de droit interne, de droit international. Et donc, si par hasard il avait des résultats, c'est se dire ben, finalement, le droit, ce n'est pas un outil utile, c'est un obstacle qui nous empêche de régler les grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il n'y a aucune chance qu'on puisse éradiquer les trafics de drogue, parce qu'il y a plusieurs dimensions à cette question. Mais la question qui était posée veut dire qu'il y a cette tentation de se dire finalement les prédateurs ont des méthodologies que nous réprouvons sur le plan moral, mais qui sont peut-être efficaces.
Anne Souhaitement, rapidement.
On le voit un peu, alors vraiment avec beaucoup de guillemets et de précautions dans ce que je vais dire, mais on le voit dans le début de succès diplomatique de Trump sur les négociations en Ukraine. Il a quand même réussi à faire quelque chose que personne n'avait réussi à faire, c'est-à-dire mettre tout le monde autour de la table et déclencher des négociations. Alors il l'a fait au prix d'images folle. On se souvient évidemment du bureau ovale avec Volodymyr Zelensky.
On se souvient aussi de l'échec en Anchorage, de l'échec à Suivre.
J'allais vous parler de l'Alaska. Donc voilà, des images parfois complètement contradictoires les unes avec les autres, mais mine de rien, ça fait bouger les lignes, il faut le dire.
Juste avant, très rapidement, Anne Desine, parce que ce que vous m'avez dit m'a mis la puce à l'oreille avant qu'on retrouve Sophie qui nous attend au standard. Vous parliez de droit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une chance, une possibilité pour que devant le juge, la prochaine audience est le 17 mars, le juge américain considère qu'il n'y a pas de charge suffisante contre Nicolas Maduro et qu'il soit renvoyé chez lui ? Non mais juridiquement.
Il n'y a aucune chance. Alors, petit récap, il y avait un acte d'inculpation avec 4 chefs d'inculpation, d'arco trafic, cocaïne, possession d'armes et association de malfaiteurs pour utiliser des armes contre l'Amérique, grosso modo. Ça, ces charges, elles ont été validées par un grand jury. Le grand jury aux États-Unis, c'est celui qui décide s'il y a suffisamment d'éléments pour inculper. Oui. Donc l'audience d'aujourd'hui, c'était une audience de pure forme, dans laquelle il y a deux choses qui sont décidées. Il est demandé aux personnes qui comparaissent si elles plaident coupables ou non coupables. Ils ont plaidé non seulement tous les deux non coupables, mais en expliquant qu'ils étaient des prisonniers, qu'ils étaient totalement innocents. Et le juge a dit, non, c'est pas le moment, on en parlera plus tard. Donc petit un, ils ont plaidé non coupables. Et petit deux, alors... comme j'étais ici, je n'ai pas entendu, mais j'imagine que le juge a dit, pas de libération sous caution, vous restez en prison.
Il reste en prison jusqu'au 17. Voilà,
vous restez, prochaine audience le 17 mars. Alors, avant le 17 mars, la défense, parce que droit à un procès équitable, le juge l'a dit, donc ils vont avoir droit à des avocats, soit payés par eux, soit payés par le gouvernement,
public defenders,
qui vont soulever deux exceptions. Un, ça a été un enlèvement, donc c'est une arrestation illégale, donc vous ne pouvez pas. Et deuxièmement, souveraineté, donc immunité pour le chef de l'État, même si celui-ci n'a pas été reconnu par la communauté internationale. Mais en fait, l'administration va expliquer que c'est différent et les juges généralement portent déférence aux arguments du président, surtout en politique étrangère, ce qui est le cas.
Il nous reste peu de temps, Sophie, mais on a du temps pour vous, je vous l'avais promis, et vous avez le temps qu'il vous faut. On vous écoute, bonsoir.
Bonsoir, merci. En fait, je me demandais, je me souviens que lors de son élection, Trump avait dit qu'il ne serait pas un dictateur dans un premier temps. Compte tenu du fait qu'il dit toujours ce qu'il fait, peut-on s'attendre à un régime américain autoritaire ?
Est-ce qu'on n'a pas déjà même un régime autoritaire ?
Oui, tout à fait. Au plan interne, il a complètement court-circuité tous les contre-pouvoirs, le Congrès, il s'en prend aux médias, il s'en prend aux universités, il s'en prend à la recherche, c'est-à-dire toute personne qui peut le contredire ou s'opposer à lui, il essaie de le réduire à néant. Alors, au plan international, il y a toujours eu une présidence toute puissante depuis les années 1970, où le chercheur Schlesinger avait parlé de présidence impériale. Donc, Trump a une admiration.
Les manifestants qui disaient « no king », donc voilà. Ça disait bien ce que ça voulait dire.
Exactement. À la gauche et chez les indépendants, il y a une vraie crainte qui, à mon avis, est réelle, que les États-Unis s'acheminent vers un gouvernement autocratique où, je répète, les contre-pouvoirs disparaissent. Ce qui est intéressant, c'est que Trump est fasciné par les hommes forts. Mm-hmm. Il est fasciné et il les envie parce que lui-même, il aimerait bien pouvoir gouverner sans aucune de ses contraintes, parce qu'il a sans arrêt ses médias qui l'embêtent, donc les procès en diffamation, les universités qui osent, les avocats qui osent défendre ses ennemis, etc.
C'est pour ça qu'il ne supporte pas que Poutine lui tienne tête. Même si c'est un homme fort, il lui tient tête. Donc
ce qui est peut-être la seule chose.
Il est peut-être en train de se retourner.
Ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour l'Ukraine, au fond, Absolument. De se dire que c'est même ce qu'on pensait au début, d'ailleurs, que c'est dans cette direction-là que Trump allait aller contre Poutine pour lui tenir tête et que ça rendrait service à l'Ukraine. On n'en est pas là. Il y a cette question de Stéphane sur WhatsApp, ce sera la dernière probablement, qui dit bien sûr qu'il fait peur, Trump. Si j'étais dirigeant européen, je ne me rendrais pas à Mar-a-Lago pour le G7. Un dirigeant doit craindre de ne pas être libre de ses décisions en étant l'hôte d'un Trump imprévisible et irrespectueux du droit international. On n'a pas parlé de Groenland rapidement. Anne Souhaitement, est-ce qu'il y a une vraie crainte désormais, une vraie crainte européenne qui dit, puisqu'il dit ce qu'il fait, en gros, puisqu'il fait ce qu'il dit plutôt, oui, c'est vrai, le Groenland est le suivant.
Alors, le Groenland, c'est sûr, je pense que c'est un tournant pour les diplomates européens qui se disent, bon, maintenant en plus on a un délai, c'est-à-dire c'est 2 mois. Donc, bon, c'est sûr que ça fait peur. Après, il faut quand même se souvenir que le Groenland, c'est le Danemark, qui est l'un des alliés les plus proches, en fait, des États-Unis. Il leur achète des armes,
élèves,
on est quand même...
C'est une ironie
totale. Donc bon, c'est quand même difficile à imaginer, mais je pense que maintenant tout le monde a compris que rien n'était impossible pour Donald Trump. Après, on sait aussi que c'est l'art du deal, Donald Trump, donc coup de pression pour essayer d'obtenir des choses. Il va sans doute dire ce qu'il veut obtenir. Je ne sais pas comment vous le voyez.
Moi, je voudrais vous soumettre cette phrase, il nous reste moins d'une minute, je voudrais vous soumettre cette phrase quand même qui est signée de la première ministre danoise après les nouvelles menaces de Trump. Et elle dit cette phrase quand même, si les États-Unis attaquaient un pays de l'OTAN, ce serait la fin de tout. Et moi, je trouve que d'une dirigeante européenne, ce serait la fin de tout. Ça veut dire que tout part en vrille, il n'y a plus d'ordre du tout. Ça dit quand même quelque chose d'important.
Oui, d'autant plus qu'elle a toujours dit, depuis 6 mois, elle explique, mais attendez, nous on est prêts à parler, vous avez une base, c'est vous qui avez retiré les autres bases, des ressources minières, vous pouvez travailler chez nous. On ne veut pas cela, mais il faut quand même se rappeler que le Groenland, c'est 60 000 personnes et qu'il y a certains autour de Trump qui envisagent de les acheter un par un en disant, vous aurez plusieurs millions et vous nous laissez faire ce qu'on veut sur le territoire du Groenland.
Vous avez 8 secondes, Anne Souhaitement.
Après, des mots aussi forts que ça, c'est peut-être aussi qu'elle a compris ou qu'elle pense que pour répondre à Trump, il faut parler fort. C'est peut-être là que c'est intéressant.
Bah écoutez, nous, on ne reparlera pas fort, justement, c'est le principe, au téléphone sonne, mais on en reparlera. Et ce sera toujours avec grand plaisir. Je vous remercie chaleureusement tous les trois et vous tous pour vos appels.